Merci d'écouter Radio France Internationale, 19h30 à Kinshasa et à Paris, 18h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Et c'est l'heure de retrouver la première édition d'Afrique Soir de ce lundi. Toute l'actualité sur le continent, c'est avec vous Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. À la une, le rapt de deux journalistes ce matin à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Il s'agit des présidents et vice-présidents de l'association des journalistes burkinabés. La semaine dernière déjà, des membres de la formation politique Sens avaient également subi le même sort, des personnalités connues pour être des voix critiques du chef de la junte. Au sommaire également, cette annonce de la présidence angolaise médiatrice dans le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, après un peu plus de 2 ans passés à jouer les intermédiaires entre Kinshasa et Kigali, la présidence angolaise met fin à son rôle de médiateur, une décision qui intervient alors que la situation reste tendue sur le terrain. Nous parlerons aussi de la recherche génomique africaine à l'occasion du sommet de l'organisation du génome humain qui s'est tenu ce mois-ci à Durban, en Afrique du Sud. Une première sur le continent. Et malgré les grandes avancées du secteur, les populations africaines, faut-il le rappeler, sont les grandes oubliées des études mondiales. À suivre aussi du football avec la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en zone Afrique. 8 matchs au programme ce lundi sur le continent. Le Mali réalise une mauvaise opération en concédant le nul face à la Centrafrique. Deux journalistes enlevés donc ce matin au Burkina Faso. Il s'agit du président et du vice-président de l'association des journalistes du Burkina Faso. Tous les deux embarqués ce matin à Ouagadougou sans mandat par des hommes disant appartenir au service de renseignement burkinabé. Les deux journalistes ont été emmenés vers une destination inconnue. Ces nouvelles disparitions s'ajoutent à celles de la semaine dernière au sein du mouvement politique Sens. Tous ces enlèvements concernent en tout cas des personnalités perçues comme des voix critiques du capitaine Ibrahim Traoré, patron de la junte au pouvoir. Le récit de Sidi Yansani.
Ce matin, les disparitions ont eu lieu au Centre National de Presse Norbert Zongo à Ouagadougou. Elles visaient Gezouma Sanogo et Boukari Ouoba, respectivement président et vice-président de l'Association des journalistes du Burkina Faso. Il y a 3 jours, l'AJB tenait un congrès extraordinaire pour élire son nouveau bureau national. À la clôture de la réunion, le président Gezouma Sanogo a dénoncé des atteintes à la liberté d'expression jamais égalées depuis le putsch du capitaine Ibrahim Traoré, ainsi qu'une totale mainmise de la junte du président de transition sur les médias publics RTB et AIB, devenus ses principaux outils de propagande la semaine dernière sur le mouvement politique Sens, qui subissait une série d'arrestations sans motif ni mandat. D'abord, son secrétaire national Idrissa Barry, emmené par des hommes en civil se présentant comme des gendarmes. Et ce week-end, c'était au tour de 4 de ses camarades emmenés vers une destination inconnue, a expliqué Sens dans un communiqué. Juste avant ses disparitions, le mouvement dénonçait les massacres récents de Peul à Soleil dans l'ouest du pays, massacre attribué à l'armée burkinabé et ses supplétifs VDP.
Sidi Yansané. Au Mali, la santé de l'ex-ministre Boiré Fili Sissoko se dégrade de façon alarmante. L'ancienne ministre de l'économie et des finances est détenue depuis plus de 3 ans et demi. Son avocat a déposé cet après-midi une nouvelle demande de libération provisoire pour raison médicale. Boiré Fili Sissoko est poursuivi dans le cadre de l'affaire de l'avion présidentiel et des contrats militaires surfacturés. Elle clame son innocence. Et aujourd'hui, David Baché, ses proches craignent surtout le pire pour son état de santé.
Elle aura bientôt 70 ans et croupit en prison depuis plus de 3 ans et demi. Ces dernières semaines, l'état de santé de Boiré Fili Sissoko s'est dégradé de manière rapide et alarmante, selon son avocat, qui a déposé cet après-midi une nouvelle demande de libération sous contrôle judiciaire, certificat médical à l'appui. Maître Djangina Tunkara n'a pas souhaité commenter davantage. Selon son entourage, Boiré Fili Sissoko est très mal en point. Elle souffre de drépanocytose, de problèmes cardiaques, d'hypertension et d'arthrose. Vendredi dernier, les procureurs de la Cour suprême et de la Cour d'appel, ainsi que le directeur national de l'administration pénitentiaire, se sont personnellement rendus à la prison pour femmes de Bolé, à Bamako, afin de constater par eux-mêmes son état. Accusé notamment de corruption dans les affaires de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires surfacturés, l'ex-ministre a toujours demandé à être jugé pour, selon elle, prouver son innocence. Il y a tout juste 3 ans, c'est dans le cadre de la même procédure que l'ancien Premier ministre Soumaïlou Boubaï Maïga était mort en détention. Les autorités maliennes de transition s'étaient opposées à son évacuation sanitaire en dépit des recommandations médicales.
David Baché,
RFI à Kinshasa, 105 FM.
La présidence angolaise l'a annoncé ce lundi matin. Après plus de 2 ans passés à jouer les intermédiaires entre Kinshasa et Kigali, Luanda met fin à son rôle de médiateur dans la crise en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. 2 mois après avoir pris la présidence de l'Union africaine, l'Angola estime qu'il est temps de se recentrer sur les priorités continentales. Une décision qui intervient alors que la situation reste tendue sur le terrain. Et Patien Ligaudi en retiendra surtout que cette médiation s'achève sur 2 échecs.
Le premier revers, c'est la rencontre manquée en décembre dernier à Luanda entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Le président congolais avait fait le déplacement, mais son homologue rwandais, lui, ne s'est jamais présenté. À ce moment-là, le Rwanda a exigé que la RDC accepte un dialogue direct avec la FCM-23. Et pourtant, 3 mois plus tard, Félix Tshisekedi a fini par rencontrer Paul Kagame, mais ailleurs, à Doha, au Qatar. Une rencontre qui a surpris le chef de la diplomatie angolaise, Antonio Tete, qui a publiquement exprimé son étonnement. Le deuxième échec, c'est la tentative avortée du 18 mars entre Kinshasa et la FCM-23. Le gouvernement congolais était présent, mais les rebelles ont décliné l'invitation protestant contre les sanctions européennes visant certains de leurs dirigeants. Autre facteur de blocage, le climat de méfiance entre Kigali et Luanda qui a rendu la médiation de plus en plus difficile. Et maintenant, que va-t-il se passer? La présidence angolaise annonce vouloir travailler avec la Commission de l'Union africaine pour identifier un nouveau chef d'État africain qui pourrait reprendre le rôle de médiateur. Ces futurs médiateurs devraient collaborer étroitement avec les organisations régionales, notamment la SADC et l'EAC. Ces 2 blocs ont d'ailleurs décidé de fusionner le processus de Luanda avec celui de Nairobi.
Patien Ligaudi. À Paris, le concert Solidarité Congo se tiendra bien le 7 avril à l'Accord Arena. C'est en tout cas ce qu'annoncent ce lundi les organisateurs de cet événement caritatif destiné à venir en aide aux enfants victimes de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Début mars, les autorités rwandaises avaient vivement critiqué ce projet car le 7 avril marque justement chaque année le début des commémorations du génocide des Tutsis. Mais les organisateurs du concert, où sont annoncés notamment Gims et Youssoufa, indique que la date choisie n'est pas un choix politique. Précision, Guillaume Thibault.
Le communiqué diffusé est titré « Solidarité Congo est maintenu à la date du 7 avril ». Alors qu'un report a été un temps envisagé, les producteurs de la soirée indiquent que la date a été choisie malencontreusement en fonction de la disponibilité des artistes et de la salle. Avec la volonté affichée de diffuser, je cite, « un message de paix », les organisateurs poursuivent « alors que nous avons vu les présidents de la RDC et du Rwanda engager une discussion à Doha, le maintien de cette date s'impose comme un symbole fort. Début mars, l'ambassadeur rwandais à Paris, François Nulikiyimfura, avait jugé consternant ce choix du 7 avril. L'UNICEF, partenaire de l'événement, avait aussi annoncé son retrait. L'organisation de Solidarité Congo, qui indique que les fonds récoltés iront à des associations de Goma et à la fondation Give Back Charity de l'artiste Dadju, appelle au respect de tous les peuples et de toutes les mémoires. L'association des Rwandais de France, qui estime que la tête d'affiche Gims est connue pour des propos qui appellent à la haine, annonce une manifestation devant la salle de concert le 7 avril, car elle estime que cet événement est un concert de la honte.
Guillaume Thibault.
N'Djamena 100.2 FM.
Le gouvernement tchadien a enfin réagi dans la nuit de dimanche à lundi aux déclarations du commandant chef adjoint des forces armées soudanaises. Dans une prise de parole diffusée par Al Jazeera et largement relayée sur les réseaux sociaux, le général Yasser Al-Atta a proféré, selon le ministère des Affaires étrangères tchadien, des menaces explicites à l'égard de la sécurité et de l'intégrité territoriale du Tchad. Correspondance à N'Djamena, Nadia Benmafoud.
Dans un communiqué publié dans la nuit de dimanche à lundi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères tchadien, Ibrahim Adam Mahamat, condamne fermement des propos irresponsables, dit-il, qui peuvent être interprétés comme une déclaration de guerre s'ils sont suivis des faits. Plus tôt dans la journée de dimanche, le général Yasser Al-Atta avait déclaré « Nous nous vengerons de Mahamat Kaka et nous l'avertissons, les aéroports de N'Djamena et d'Amjaras sont des cibles légitimes pour les forces armées soudanaises ». Fin de citation. Depuis plusieurs mois, Khartoum accuse régulièrement N'Djamena de fournir une aide militaire à ses adversaires, les forces de soutien rapide du général Emeti, ce que les autorités tchadiennes démentent. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a précisé que le Tchad se réserve le droit légitime de riposter avec vigueur à toute tentative d'agression contre le Tchad. Dans son communiqué, Ibrahim Adam Mahamat accuse les régimes soudanais d'avoir tenté de déstabiliser le pays, notamment en orchestrant des rébellions et en soutenant Boko Haram, tout en rappelant que N'Djamena a toujours choisi de ne pas répondre par la violence avant de déclarer que le Tchad demeure fidèle à sa position position de neutralité dans le conflit intersoudanais. Nadia Ben Mafoud, N'Djamena, RFI.
Le Soudan du Sud fait face à sa pire épidémie de choléra depuis 20 ans. Plus de 40 000 cas et près de 700 décès en 6 mois ont été recensés. L'UNICEF lance l'alerte. La maladie se propage rapidement alors que les violences dans l'état du Haut-Nil entravent l'accès aux soins. Médecins sans frontières s'inquiètent d'une crise humanitaire grandissante aggravée par les déplacements massifs de population. Et on ouvre notre page de sport avec du football et la sixième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en zone Afrique. Bonsoir Sofiane Amazian.
Bonsoir Zéphira, bonsoir à tous.
8 matchs au programme ce lundi sur le continent. Le Mali réalise une mauvaise opération en concédant le nul face à la Centrafrique.
Oui, coup d'arrêt pour les Aigles Zéphirin muets contre la Centrafrique dans un match fermé et délocalisé au stade Larbi Zaouli de Casablanca au Maroc. Les protégés Tom Seinfeld sont quatrième de ce groupe I à 3 points du leader ghanéen qui a un match en moins. Les chances de se qualifier directement pour le Mondial 2026 s'amenuisent. Dans le groupe A, le Burkina Faso reste au contact de l'Égypte leader après son succès 2-1 en Guinée-Bissau, doublé de l'attaquant de Donetsk que Lassina Traoré côté étalon. Son troisième but en deux matchs avec 11 points. Le Burkina Faso revient donc à deux longueurs de l'Égypte qui doit affronter la Sierra Leone. Ce sera demain.
Et puis dans quelques minutes, Sofiane, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, affronte la Gambie du côté d'Abidjan.
Et pour reprendre la tête du groupe F, occupé pour l'instant par le Gabon avec 15 points. Les éléphants sont deux points derrière et ne veulent pas voir leur principal rival prendre de l'avance face à la Gambie cinquième. Il faudra montrer un bien meilleur visage que face au Burundi il y a trois jours, et cette victoire étriquée 1-0, le sélectionneur Emers Faye en est conscient.
Que ce soit individuellement ou collectivement, on doit faire mieux. Être capable de ressortir le ballon quand l'adversaire vient nous presser. Être capable de partir de derrière, amener le ballon jusqu'au but adverse pour créer des opportunités. Mais je pense que globalement, techniquement, on doit faire beaucoup mieux et on doit être peut-être plus mobile. Quelle que soit la manière, le plus important c'est de gagner. On est dans un championnat où, on le sait, c'est une qualification, une Coupe du Monde où la Côte d'Ivoire n'a pas participé depuis 10 ans. Donc sur 10 matchs, on sait qu'on va pas toujours bien jouer, on sait qu'on va pas toujours avoir la maîtrise. Donc le plus important c'est de gagner, quelle que soit la forme du jour et quelle que soit la manière.
Emers Faye au micro de Youen Gourlet. Coup d'envoi de la rencontre, 19h temps universel, et dans le même temps, Zéphirin choc au sommet dans la poule I entre les Black Stars du Ghana, leader avec 12 points, on le disait en préambule, contre Madagascar, deuxième.
Merci beaucoup, Sofiane Amazian. RFI 18h43 en temps universel. Retour sur le sommet de l'organisation du génome humain qui s'est tenu ce mois-ci à Durban en Afrique du Sud. Une première sur le continent, je vous le disais en titre. L'occasion de mettre en lumière le manque de données existantes autour de la diversité du patrimoine génétique des populations africaines. Rappelons qu'à ce jour, la plupart des recherches et des séquençages sont réalisés en Europe et aux États-Unis. C'est un sujet signé Claire Bargelès.
Nous tous, humains, formons une seule espèce et partageons à plus de 99,9% le même génome. Mais les quelques variations restantes, qui ont eu lieu au cours des millénaires, peuvent avoir une grande influence sur notre santé. Et comme les indices des découvertes scientifiques indiquent que les premiers hommes sont originaires d'Afrique et que seule une partie d'entre eux a ensuite peuplé le reste du monde, les gènes des différentes populations restées sur le continent renferment encore beaucoup de secrets pour l'ensemble de l'humanité. Selon la pédiatre et présidente de la Human Genome Organization, Ada Amosh, on ignore encore presque tout de leur variété.
La diversité génomique à l'intérieur de l'Afrique n'est pas du même ordre de grandeur que pour le reste du monde. En termes de groupes ethniques, de clans, etc., il y a beaucoup plus de diversité sur ce continent que partout ailleurs. On aurait énormément à apprendre si on séquençait davantage les gènes des populations africaines.
Et pourtant, ces variations ne sont quasiment pas analysées, avec moins de 2% des génomes séquencés mondialement appartenant à des populations africaines. Après des études en Ouganda, Christopher Kintu travaille désormais sur ces questions à l'université Queen Mary de Londres.
Ces études ont été historiquement réalisées sur des populations d'origines européennes et ce n'est pas surprenant, car cela demande beaucoup de temps, d'argent et de ressources que l'on n'a pas forcément à disposition en Afrique. Donc cela signifie qu'il faut qu'on en fasse plus en tant que scientifique.
Même sur le continent, les recherches sont inégales, avec beaucoup de travaux effectués en Afrique du Sud. Dans des pays comme la RDC, les études sont balbutiantes, regrette Aimé Lumaka, professeur de génétique à l'université de Kinshasa.
En RDC, c'est un pays où on a un grand potentiel génétique, mais où on a très peu de main-d'œuvre. Pour le moment, on n'a qu'un seul centre de génétique qui est basé à l'université de Kinshasa. et le personnel qu'il y a dans le centre de génétique n'est pas encore suffisant pour ne fût-ce que répondre aux besoins dans la ville de Kinshasa, malheureusement.
Les séquençages effectués par exemple aux États-Unis ou au Royaume-Uni contiennent bien des données issues des diasporas africaines, mais elles ne sont pas représentatives de l'ensemble du continent et des effets de l'environnement. Claire Bargelès, de retour de Durban, RFI.
Et malgré de grandes avancées dans le secteur, plus de 20 ans après le premier décryptage complet d'un génome humain, les populations africaines représentent moins de 2% des génomes séquencés, un biais que le chercheur Ambroise Roncam dénonce depuis plusieurs années. Le président de la Société africaine de génétique humaine était au sommet de Durban. Alors où en est-on aujourd'hui ? Réponse justement d'Ambroise Roncam au micro de Claire Bargelès.
Ce qu'on en sait, c'est que c'est une immense bibliothèque de 23 paires d'étagères que nous appelons techniquement les chromosomes. Et dans ces chromosomes-là, il y a 20 000 paires de livres que nous appelons gènes. Et dans ces gènes, il y a des lettres que nous appelons nucléotides, on en a 3 milliards. Nous savons que dans ces 3 milliards de nucléotides, il y a seulement 2% qui représentent ces livres que nous appelons gènes, qui codent pour les protéines. Nous savons également que toutes les populations humaines viennent du continent africain.
Et donc, que sait-on des variations de ce génome chez les populations restées sur le continent ?
Justement, on n'en sait pas grand-chose. C'est que nous connaissons des lettres de l'alphabet de notre génome. Jusqu'à 98%, ce sont les variations des populations en général européennes. Les programmes de séquençage des génomes jusqu'à présent, ce sont des programmes nationaux. L'un des plus illustres, c'est le UK Biobank, qui a séquencé plus de 500 000 à ce jour populations d'origine britannique. Ces pays-là, ce sont les pays que nous disons à ressources élevées. Et dans ces cas-là, ce sont les pays européens ou américains. Conséquemment, jusqu'à présent, les représentations des populations d'origine européenne est largement plus disproportionnellement représentée par rapport à ce que nous souhaiterons voir. Ça veut dire qu'une bonne partie des variants génétiques qui sont dans les populations africaines d'aujourd'hui, nous n'en connaissons rien parce qu'en fait, ils n'ont jamais quitté le continent.
En pointant du doigt les différences au niveau du continent africain, est-ce qu'il n'y a pas un risque de réveiller les vieux démons du racisme ?
Absolument pas. Et je pense qu'on a tous un intérêt scientifique de connaître la diversité génétique africaine. Premièrement, on est tous africains, donc c'est la raison ancestrale. Il y a des parties de notre génome qui ne sont pas encore bien connues, que nous appelons par exemple les parties fantômes du génome. Ce sont des parties en fait que nous avons héritées de certaines populations humanoïdes qui n'ont jamais quitté le continent. La deuxième raison, c'est l'écologie du continent africain qui est radicalement différente de l'écologie du continent européen ou asiatique. Le continent africain a une orientation nord-sud et cet axe nord-sud permet d'avoir une diversité environnementale du Caire à Cape Town et au milieu on a la forêt équatoriale. Chaque fois qu'on a une diversité environnementale, cela met la pression sur notre génome et notre génome est modifié. Plus vous avez de diversité environnementale, plus vous avez une diversité en infection et les infections également modifient notre génome au cours du temps.
Et si on n'a pas suffisamment de données sur toutes les populations, elles se retrouvent exclues des avancées de la médecine ?
Absolument. Il y a également la raison d'équité. Si nous ne connaissons pas, par exemple, les gènes qui sont les plus importants en termes de diagnostic génétique des maladies génétiques des populations africaines, il est impossible pour moi, en tant que médecin généticien, de soigner un enfant africain de la même façon que je soigne un enfant européen. Il y a très longtemps, je vivais et travaillais en Suisse. Si je vois un enfant suisse, européen, qui est né avec une surdité, en testant un seul gène, dans 50% de cas, je résous la question de l'origine de la surdité. Lorsque je suis retourné sur le continent africain, j'ai testé les enfants camerounais ou les enfants sud-africains noirs. 0% de ces enfants n'avaient des mutations dans ces gènes. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle l'un des axes de recherche aujourd'hui pour moi, c'est de retrouver des gènes qui sont relevants pour la surdité dans la population africaine.
Et puis on peut dire que se priver de ces données, c'est ralentir la recherche mondiale puisqu'elles contiennent des réponses pour l'ensemble de l'humanité.
Je vais vous donner un exemple typique. Il y a un gène qui a des variants qui sont représentés dans les populations africaines 200 fois plus que dans les populations européennes. Et nous savons que ces variants sont associés à une réduction du taux de cholestérol est de plus de 40% si vous comparez un Africain et non un Africain vivant dans le même environnement. Et cette connaissance a permis de développer au moins 3 médicaments pour lutter contre le taux de cholestérol élevé. Sans étudier la population africaine, ces médicaments n'auraient pas été développés.
Cependant, sur le continent, la priorité est plutôt mise sur les maladies infectieuses comme le paludisme ou le sida et le séquençage des virus plus que le séquençage du génome humain.
Oui, c'est une priorité logique, mais je dois aussi dire que la crise du Covid nous a montré que les laboratoires de génétique, ce n'est pas seulement pour les maladies rares. Avec les mêmes équipements, vous détectez les virus de l'hépatite virale, vous détectez les virus du HIV, et ça permet également d'étendre en fait l'utilisation de la technologie génétique. Donc ce n'est pas seulement pour les maladies rares humaines, mais ça peut être aussi utilisé pour les maladies infectieuses.
Le chercheur Ambroise Roncam au micro de Claire Bargelès pour ce dossier consacré à la recherche génomique africaine. RFI 18h50, temps universel, une heure de plus à Kigali. Et on accueille Franck Baudin de la rédaction web de RFI pour un tour de l'actualité musicale. Bonsoir Franck.
Et bonsoir Zéphirin, bonsoir à tous.
Qu'avez-vous dans votre sélection ce soir?
Alors je vous propose de commencer avec un artiste qui nous vient du Rwanda. Il a tout juste 31 ans, il est chanteur, danseur, chorégraphe et il s'appelle Impakanizi. Voici le titre Ingabe sorti sur son premier EP l'an passé. Écoutez comme c'est délicat. Usanira sheneza musechewe ya ningirenga ryachewe ningiriya irijesu Rwanda.
Impakanizi, un titre qui invite au voyage, qui reste très délicat. Alors comment avez-vous découvert cet artiste, Franck ?
Alors, Impakanizi, c'est un mot sorti des traditions poétiques ancestrales. On l'utilise pour décrire un personnage rebelle, prêt à parcourir le monde et à en affronter les dangers. C'est notre journaliste Anne-Laure Lemancel qui nous a ramené cette belle découverte lors d'un voyage au Rwanda. Et elle a dressé le portrait de l'artiste pour notre site internet.
Jésus nasci la Belén, ami la ciudad.
Et on passe du Rwanda au Cap-Vert.
Ami den tuchon di praia, se storia bemuda mundo in tonko brinca cunha voz.
Vous écoutez la chanteuse Mayra Andrade et son titre Limitation, version très épurée de la chanteuse capverdienne, Franck.
Ah oui, c'est une chanson de son projet Reencanto, sorti l'an passé. Reencanto, ça veut dire réenchanter, et pour cause, c'est un disque de ses propres chansons revisitées dans une configuration minimaliste en guitare-voix. Je vous en parle parce que Mayra Andrade était il y a quelques jours en concert près de Paris pour nous partager ses bonnes ondes, et c'est encore une fois Anne-Laure Lemancel qui s'est chargée de nous raconter ce moment dans un superbe reportage.
Anne-Laure Lemancel, qu'on remercie évidemment beaucoup. Changement d'ambiance, on prend la direction de la Guinée. Et c'est bien la voix de Jupiter Davaib qu'on entend là.
Oui, c'est exactement ça, Zéphirin, le chanteur guinéen qui a sorti son dernier album Fabelan chapitre 2 il y a quelques semaines. Un disque de 14 titres sur lequel vous retrouvez ce titre Onanier que l'on entend en ce moment, mais aussi des collaborations avec Takana Zion, Hiro ou Psun. Vous avez l'air de connaître cet artiste, Zéphirin.
Et oui, effectivement, DJ Facemaker nous en avait déjà parlé ici même dans Afrique Soir.
Quand il s'agit d'Afropop, c'est très difficile d'arriver avant DJ Facemaker, mais vous savez qu'il ne fait pas qu'ambiancer Afrique Soir. Il écrit aussi des interviews comme celle de Jupiter Davaib que l'on retrouve sur notre site internet rfi.fr/musique et avec tous nos autres contenus musicaux.
Merci Franck Baudin pour ce tour en musique et on écoute Jupiter Davaib et son titre Onanier.
Tes désirs ce soir sont les ordres. Viens que je te donne de l'or.
Voilà, onanier de Jupiter d'Avail pour refermer cette chronique signée Franck Baudin.
Afrique Soir.
RFI 18h55 en temps universel à suivre dans les prochaines minutes sur notre antenne. 19h10 temps universel accent d'Europe. Alors que l'Union européenne discute du renforcement de sa législation contre les méfaits des microplastiques au niveau local, des citoyens se mobilisent. C'est le cas en Bretagne, dans l'ouest de la France, où une collecte est organisée chaque année à Brest sur la plage. Collecte annuelle pour sensibiliser les habitants à la pollution des océans. Une crise de l'ampleur de celle du changement climatique et chacun a son rôle à jouer. C'est en substance ce que nous explique Christian Attin, médiateur scientifique.
Les déchets qu'on va retrouver sont essentiellement liés à nos activités. On va pas pouvoir dire c'est à l'autre bout du monde qu'on a pollué et on reçoit le résultat de cette pollution lointaine. Non, c'est-à-dire qu'au niveau local, on peut agir pour essayer de trouver les solutions. Et justement, c'est le but de ces collectes, c'est de montrer au public, mettre un peu les mains dans le cambouis, se rendre compte des différents types de déchets que l'on retrouve pour les sensibiliser et voir quelles actions on peut mettre en place pour limiter l'arrivée de ces déchets justement dans le milieu marin.
La suite, c'est tout à l'heure dans Accent d'Europe à 19h10 temps universel ou en podcast sur le site de RFI ou l'application Pure Radio. Et puis à 19h40, toujours en temps universel, le grand reportage. Reportage qui nous conduit dans la province du Wadaï. C'est dans l'est du Tchad où la petite bourgade de Farchana connaît de nombreux bouleversements. Le réchauffement climatique et la déforestation qui frappent la région ont érodé les sols. Et l'eau se fait de plus en plus rare. Cette crise climatique s'ajoute un drame humanitaire. Depuis 2003, plus de 50 000 réfugiés soudanais se sont installés à Farchana. Alors comment survivre dans ces conditions? Comment se passe la coexistence entre la population tchadienne et les réfugiés? Voyage à Farchana sur fond d'une double crise climatique et humanitaire avec ce grand reportage d'Igor Strauss.
Alors Moustapha, où est-ce qu'on est là?
On est au Hadi.
Là, pour décrire, c'est une immense étendue de sable entourée d'arbres. Mais normalement, il y a de l'eau ici.
On y trouve des enfants qui puisent de l'eau, mais c'est pas une eau potable. Hein.
Oui, on voit un petit peu plutôt marron. Quoi.
Un peu marron, ça veut dire que ça peut être une eau contaminée.
Et il y a des petites filles qui sont venues chercher l'eau.
Ouais, un grand reportage à retrouver à 19h40 temps universel ou en podcast sur le site de RFI ou l'application Pure Radio. Et puis enfin, à 20h10 temps universel, Couleur Tropicale. Toute cette semaine, l'émission consacre sa programmation musicale aux nouveautés de la semaine avec une séquence Gold qui met à l'honneur des artistes et des chansons cultes. Un extrait de la sélection avec Zando de X-Time et Vano Babi.
Sado,
Zelumi,
Lumbazi, Lopo,
Salumi,
Salumi, Lumbazi, Lopo, Batenia, Bende, Pedo, Benia, Kantonsa,
Zigidik, Pligidik, Bagidi, Sagilija, Nyane, Wow,
Wow, Wow,
Zando de Islam et de Van Bali à retrouver à 20h10 temps universel dans Couleur Tropicale. Merci de rester à l'écoute de notre antenne avec à suivre dans moins d'une trentaine de secondes maintenant un nouveau journal sur la radio mondiale. Excellente soirée à toutes et à tous.
Esprit.
Pourquoi RFI dit ça? Posez vos questions, Juliette Rangeval.
Chaque semaine, nous vous expliquons les contraintes et le fonctionnement de la fabrique de l'information. Alors si vous avez des questions ou des commentaires sur notre traitement de l'actualité, à l'antenne comme sur le numérique, une adresse pour nous écrire pourquoi@rfi.fr.
Nous répondons à toutes vos questions tous les vendredis à 11h10 et 19h41 sur RFI.